Donc bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Claude Guilbeault. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à la librairie Mola.
Je vais éteindre mon portable.
Ça peut être une bonne idée. Alors Jean-Claude Guilbeault, nous allons parler de votre livre qui est paru il y a un peu plus d'un mois aux éditions de l'Iconoclaste, La foi qui reste. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes journaliste, éditeur, romancier, essayiste. Vous avez collaboré et travaillé pour différents journaux tels que Sud-Ouest, Le Monde, Le Nouvel Observateur. Vous tenez actuellement une chronique hebdomadaire dans Le Nouvel Observateur. Vous collaborez également. Voilà, c'est ce que j'allais dire, absolument. Vous collaborez également avec la revue hebdomadaire La Vie, dans laquelle vous tenez un bloc-notes. Vous avez aussi beaucoup travaillé aux éditions du Seuil. Vous avez été longtemps directeur littéraire. Et plusieurs de vos essais... 32 ans. 32 ans, voilà. Plusieurs de vos essais ont été édités aux éditions du Seuil. Je peux en citer certains. La refondation du monde en 1999. La force de conviction en 2005. Le commencement d'un monde en 2008. Et parmi vos titres plus récents, on peut citer aussi La vie vivante, édition Les Arènes en 2011 et Une autre vie est possible aux éditions de l'Iconoclaste. Également Les tourments de la guerre aux éditions de l'Iconoclaste. Alors, en 2007, il y a 10 ans, vous aviez publié chez Albin Michel un livre dont on avait beaucoup parlé qui s'appelle « Comment je suis redevenu chrétien ». Moi, je me souviens très bien, puisque j'étais jeune libraire dans le rayon religion à l'époque. Vous expliquiez en 2007 pourquoi vous aviez renoué avec la foi chrétienne que vous aviez délaissée depuis après l'adolescence. Avec le livre que vous êtes venu nous présenter ce soir, « La foi qui reste », on peut y voir une sorte de continuité, sinon de bilan, 10 ans après. Le titre « La foi qui reste » est un titre qui est, à mon sens, extrêmement bien choisi, puisqu'on peut le comprendre de différentes manières. La foi qui reste, c'est-à-dire votre foi qui reste 10 ans après, où en est-elle
malgré beaucoup de choses.
Malgré tout, malgré beaucoup de choses. On peut aussi y voir, et c'est évidemment le cas quand on lit votre livre, la foi qui reste en France d'une manière plus large. Et on y voit une autre dimension qui s'éclaire beaucoup plus à la fin de l'ouvrage. On peut comprendre ce titre par « la foi qui reste à venir ». Et ça éclaire très très bien, je trouve, ce titre éclaire très bien le cheminement qui est le vôtre, que l'on comprend à la lecture de votre livre, qui commence par un premier chapitre intitulé « L'effondrement » ou « Quand tout s'effondre ». Et qui se termine sur une note optimiste. Avec un chapitre qui s'intitule « La puissance des matins ». Alors, j'ai envie de vous poser une première question concernant peut-être le livre que vous aviez fait paraître en 2007, « Comment je suis redevenu chrétien ». J'aimerais savoir, Jean-Claude Guilbeault, qu'est-ce qui vous avait conduit à l'époque à renouer avec votre foi chrétienne ? Parce que c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas...
Je vais vous le dire, c'est très simple. Enfin, quand je suis parti à Bordeaux pour faire mes études, c'est vrai que je me suis détaché de la foi, sans rompre. C'est-à-dire, j'avais rien à reprocher au curé. J'ai pas fait une rupture à la Michel Onfray, on en a parlé souvent tous les deux. Non, je fais partie de la génération qui a été sécularisée. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis lancé, je voulais faire l'agrégation de droit, donc je suis venu à Bordeaux. Et puis, comment vous dire, bien longtemps après, quand je suis devenu directeur littéraire aux éditions du Seuil, on m'a chargé des sciences humaines et on m'a chargé de m'occuper de grands auteurs qui ont beaucoup compté pour moi, parce que certains d'entre eux sont devenus des amis. Je pense à Edgar Morin, à Michel Serres, à René Girard. Et c'est vrai que je leur dois énormément, comme je devais déjà beaucoup à celui qui a été mon professeur à Bordeaux et dont je me sens un peu l'héritier, c'est Jacques Ellul. J'ai été très impressionné par Jacques Ellul et je n'ai jamais, jusqu'à sa mort, coupé les ponts avec lui. Il a été mon professeur, je suis devenu son éditeur et en même temps son ami, quoi. Et je fais toujours partie de l'association internationale Jacques Ellul. Mais comment vous dire, je me suis, grâce à ces grands auteurs qui m'ont encouragé, comme j'étais chargé de surveiller ce qui se passait dans les sciences humaines à l'époque, et il se passait beaucoup de choses qu'on a oubliées. Il y avait une grande interrogation, tout le monde sentait bien, je veux dire, les intellectuels internationaux, y compris les prix Nobel, etc., que nous allions au-devant de mutations gigantesques, que notre monde allait être transformé. Et j'ai suivi beaucoup de colloques, y compris aux États-Unis, à Stanford, en Californie, dont le thème était toujours, l'intitulé était différent, mais le thème central était le même: qu'est-ce qui nous arrive? Comment on peut essayer de comprendre cette mutation gigantesque? Et on ne peut la comprendre que de façon transdisciplinaire, parce qu'on ne peut pas la comprendre simplement du point de vue économique, du point de vue... Alors j'ai suivi tous ces colloques, et puis un jour, je vais vous raconter cette anecdote assez drôle, mais Michel Serres, un jour, on était ensemble chez René Girard à Stanford, en Californie, et Michel Serres pestait contre ce qu'il appelait la parcellisation du savoir, et surtout ce qu'il appelait... le corporatisme universitaire, vous savez, c'est-à-dire que dans l'université, si vous êtes marqué philosophe, vous n'avez pas le droit de vous intéresser à autre chose que de la philosophie. Si vous êtes considéré comme un économiste, et si vous vous intéressez par exemple à l'anthropologie, on vous dit « mais monsieur, vous n'êtes pas anthropologue ». Enfin, il y a cette espèce d'astreinte à sa discipline, et c'est un peu étouffante. Ce qui fait que Michel Serres, à l'époque, c'est lui qui m'avait fait connaître cette fameuse phrase de Mark Twain, l'écrivain américain, qu'il appliquait à la situation. Mark Twain disait « Quand on a la tête en forme de marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. » C'est ce qui fait qu'à la télévision, quand on reçoit un économiste, il vous explique tout par l'économie. Quand on reçoit, je sais pas, un généticien, il vous explique tout par la génétique. Quand on reçoit un philosophe ou un psychanalyste... Et Michel Serres me disait « Tu comprends quand même, donc on peut pas... » Et tout d'un coup, il se tourne vers moi, il me dit « Mais Jean-Claude, toi, il n'y a rien d'écrit sur ton front parce que tu viens du journalisme, c'est-à-dire de nulle part. » Alors je lui dis, bon, t'es bien gentil, etc. Et puis après, il a eu cette phrase magnifique, mais franchement, qui a déterminé 15 ans de travail pour moi. Il m'a dit, Jean-Claude, non, mais rassure-toi, c'est pas du tout péjoratif de ma part. Et il a eu cette phrase magnifique, il m'a dit, mais il faut que tu comprennes que toi, sur le terrain des idées, tu pourras chasser sans permis. C'était une très belle phrase. Et il m'a dit, réfléchis. Ça te fait un job. Donc je me suis lancé dans cette grande série de livres. J'en ai fait 6, sous un titre générique qui était « Enquête sur le désarroi contemporain », c'est-à-dire qu'est-ce qui nous arrive, comment comprendre, etc. J'ai eu la chance, parce que tous ces livres ont très bien marché, etc. Mais petit à petit, je me rendais compte moi-même, mais sans me le dire, qu'au fond, plus je faisais des recherches sur les valeurs qu'il fallait défendre, sur la manière dont on arrivera à vivre ensemble demain et tout, plus je tombais sur la Bible, ou la Torah, qu'est-ce que je vous dis, c'est-à-dire que je me ramenais, mon travail intellectuel me ramenait sans cesse au fait que y a des valeurs auxquelles nous croyons et qui ne peuvent pas être d'une autre origine que la Bible. Si vous croyez à l'égalité, par exemple, nous sommes l'Occident est la seule culture qui croit à l'égalité fermement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux humanités, il n'y en a qu'une. Et ça, c'est inséparable de l'épître aux Galates de Paul. De même qu'il y a des choses comme l'espérance, pour nous, notre espoir, que Condorcet a appelé le progrès, qu'il a laïcisé. Mais l'espérance, c'est ce qui nous vient des Juifs. C'est le messianisme juif que nous avons reformulé sous le nom d'espérance. Donc je butais sans arrêt là-dessus. Mais... voilà, j'étais pas dans une démarche de légitimation du christianisme, je m'en foutais, c'était pas mon projet. Mon projet, c'était de comprendre. Et puis un jour, j'ai appris, tenez-vous bien, j'ai appris par hasard, par un jeune moine de Landévennec, en Bretagne, qui est venu me voir, j'allais faire une conférence sur un truc, et il me dit, monsieur Guibaud, savez-vous qu'on lit tous vos livres au réfectoire? Alors j'étais très impressionné. Et puis mieux encore, une fois, j'ai été invité à l'abbaye de, comment ça s'appelle, Encalca, au sud de Toulouse, qui est une grande abbaye bénédictine. Hein, et le moine qui est mort maintenant, qui était frère Anselme, qui s'occupait de la bibliothèque. Et il nous avait invités à deux, parce qu'il savait qu'on se connaissait, avec Régis Debray, à dialoguer pendant 3 jours avec les moines. Mais sérieusement, hein. C'est-à-dire 2 heures après-midi, 2 heures le matin, 2 heures après-midi pendant 3 jours. Donc on avait quand même... et donc c'était assez sympa. Mais le premier soir de mon arrivée, on était au réfectoire avec les moines. Moi, j'étais au bout de table, et puis avec un des moines les plus jeunes, il devait avoir 45 ans, un peu plus jeune. Donc on faisait un peu aparté, on était un peu... Et tout d'un coup, il me dit, monsieur Guibaud, il me dit, on connaît tous vos livres parce qu'on nous les a lus en réfectoire, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Et cette phrase, je l'ai pris en plein cœur, au bon sens du terme, il m'a dit, monsieur Hibo, vous parlez notre langue sans accent. C'est-à-dire, vous parlez chrétien sans accent. Ouais. Ben, je lui ai dit, écoutez, alors c'est involontaire. Et c'est vrai que ça a déterminé beaucoup de choses pour moi. Quoi. C'est-à-dire, j'ai fini par me dire, et puis alors, petite anecdote, puisque il faut que je réponde à votre question, tout ça n'explique pas pourquoi j'ai écrit comment je suis redevenu chrétien. Je savais que cette question, elle m'attendait un jour ou l'autre, parce que souvent dans les conférences, les gens, comme ce soir ici, il y a des gens qui se levaient, mais monsieur Guillemot, vous êtes chrétien, oui ou non? Parce que vous ne le dites pas dans vos livres, mais on le sent. Et moi, j'avais envie de répondre, je n'en sais pas moi-même, il faut que je m'interroge moi-même sur ce fait. Et puis, bon, pour la petite histoire, je ne vais pas m'approfondir là-dessus, mais il se trouve qu'il y a 12 ans, on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate. Et que les premiers résultats n'étaient pas bons. Et que donc, j'exagère pas, mais on donnait pas trop cher de ma peau, quoi. Alors, c'était l'été, je me suis tapé, je sais pas combien, 45 ou 50 séances de radiothérapie, puis après des tas de choses, etc. Et j'étais un peu fatigué, c'est normal. Et puis je me suis dit, mais au fond, si je passe pas l'année, quelquefois, ça fait 12 ans de ça. Et je me suis dit, j'étais trop fatigué pour reprendre mon gros livre en route, donc j'ai écrit ce petit livre, « Comment je suis redevenu chrétien ?» en disant qu'au moins, j'ai répondu à la question avant de passer l'arme à gauche, quoi. Et puis, je n'ai pas passé l'arme à gauche. On vient même de dire, il y a un an et demi, que le docteur qui me suit m'a dit, je n'ai pas le droit de vous le dire, monsieur Guibault, mais moi, je prends la responsabilité de vous le dire, vous êtes définitivement guéri. Alors, champagne et tout ça, donc... voilà l'origine. Donc ce petit livre, je l'ai écrit pour rien.
Pardon ?
C'est pas que je l'ai écrit pour rien. Oui. Non, il a et j'aime bien au fond qu'il ait cette origine. Et ça m'a rapproché de René Girard, parce que René Girard, que j'ai beaucoup lu, qui était un de mes maîtres et tout ça, il l'a dit qu'une seule fois. Il a commencé à écrire, à faire ses grandes recherches avec le mensonge romantique et vérité romanesque, parce qu'on lui avait diagnostiqué un cancer dont il a guéri lui aussi. Ah. Je ne le savais pas. Donc bon, ça nous a rapprochés.
C'est peut-être voilà,
une fois de plus.
Le secret.
Voilà.
Alors, donc pour en revenir à la foi qui reste, vous commencez par ces mots au tout début du premier chapitre. 10 ans après, cette foi est toujours là, opiniâtre, mais parfois tourmentée. Il m'arrive non pas de douter, mais d'être terriblement inquiet. Quand je regarde mon pays, la France, j'aperçois ce qui ressemble à un effondrement ou un rejet brutal du christianisme.
Oui.
Alors, quel est votre bilan, justement, 10 ans après? Est-ce qu'il est difficile d'être chrétien aujourd'hui en France?
Ben, je vous dirais, en tout cas, il faut... Je me suis dit que je ne pouvais pas me dérober devant ces questions. Et les deux premiers chapitres, c'est les deux grandes questions qui m'ont assailli quand je me suis dit, je ne peux pas me dérober, je ne peux pas être lâche. Première question, c'est vrai que dans 10 ans, il n'y aura plus de prêtres, ou presque. Il n'y a pratiquement plus d'églises en service. Chez moi, en Charente, il y en a 1 sur 10. Bien restauré, mais il n'y a personne dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a cette espèce de disparition fique. Et puis un jour, peut-être que je le raconte dans le livre, mais ça m'avait frappé. Pour un tout autre livre, on m'avait invité à aller faire une conférence à Poitiers. C'est pas trop loin de chez moi. Et comme j'étais arrivé en retard, enfin j'étais arrivé au train juste, là, j'avais pas eu le temps de passer à l'hôtel qu'on m'avait retenu avant d'aller à la conférence. Et j'ai vu que mon hôtel, c'était une église, transformée en hôtel, vous voyez, je veux dire. Avec la nef qui était le hall d'entrée, avec dans les travées, il y avait petit déjeuner à gauche, petit... Et comment vous dire, et ils avaient... En plus, ils avaient fait une publicité sur le thème, une église, c'est un endroit de paix, vous serez bien logé, etc. Ça m'a choqué, ça m'a même tiré des larmes, vous voyez, je veux dire, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai. Et comme je connais bien le Québec, et je sais qu'au Québec, les églises ont été aussi transformées en hôtels, etc. Mais je connais bien l'URSS. Et je sais qu'en 1917, la plupart des églises ont été transformées en étables ou en granges à foin, etc. Pendant 75 ans, cette soirée en plus, ils m'avaient logé dans une chambre, j'étais sur les cintres, quoi. Je pouvais toucher les moulures. C'était une nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Vous voyez, c'est tout bête, mais... Donc j'ai pris conscience de ce que personne ne veut voir, c'est que physiquement, l'église va disparaître, en tout cas dans sa forme actuelle. Quand on n'aura plus de prêtres, quand on n'aura plus d'église en service, comment on fera pour être chrétien? J'ai voulu regarder ça en face. Et puis le deuxième chapitre, c'est que non seulement... D'ailleurs, il y a un livre qui vient de paraître que je trouve très bien. Je ne me souviens plus de l'auteur qui a dit « Comment serons-nous chrétiens dans un monde qui ne l'est plus ?»
Oui, oui, oui.
Et c'est... Moi, ça ne me chagrine pas, au contraire. Il y a René Girard, je fais une petite parenthèse, qui m'avait dit cette phrase que j'ai jamais oubliée. On évoquait ça déjà avec Girard, mais pas assez évidemment. Il m'a dit, Jean-Claude, tu sais, au pire des pires, deux ou trois générations de chrétiens dans les catacombes, ça ferait pas de mal au christianisme. Ça lui redonnerait son prix, oui, ça lui. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui m'a... Et puis je disais, le deuxième chapitre s'ajoute en plus une espèce de rejet du christianisme, de diabolisation qui est extravagante. Je veux dire, je connais bien Caroline Fourès et tout, mais il y a un côté pathologique, bon, parce que...
Oui, vous...
Oui, enfin, moi, je lui ai dit, d'ailleurs, c'est pas... Mais en même temps, elle a du talent et tout ouais. Ça, mais cette espèce de volonté de dénoncer le cléricalisme dans un pays où le christianisme est en train de disparaître, il y a un côté théâtre du Châtelet, vous voyez, c'est comme ça, vous réveillez l'adversaire pour montrer oui. Ses muscles.
Oui, puis vous précisez aussi qu'on fait souvent l'amalgame entre laïcité et athéisme, ouais. C'est-à-dire que la frontière est ténue.
J'ajoute, parce que j'ai trouvé, je la cite, je ferai une phrase... J'imagine qu'elle a regretté de l'avoir écrite, mais une phrase de Caroline Fourest où justement elle fait, vous savez, elle fait un éloge de la laïcité. Oui. Et à un moment donné, elle dit au fond, parce que ce rejet de la religion, il a été en grande partie provoqué chez nous par le terrorisme musulman. Parce qu'on a dit, ah, le terroriste, bon, alors on a fait d'abord l'amalgame entre les djihadistes et puis les musulmans, ce qui était parfaitement injuste. Je connais quantité de mes amis qui sont musulmans et qui sont les premières victimes du terrorisme et tout. Puis après, de fil en aiguille, on a fait l'amalgame entre le terrorisme et la religion en général. Moi, j'ai reçu combien de lettres? Quand j'ai écrit Le Tourment de la guerre, j'ai beaucoup travaillé sur la question. S'il y a des guerres quelque part, c'est de la faute de la religion. Ce qui est une stupidité totale, idiote, imbécile. Parce que moi, qui étais correspondant de guerre pendant 30 ans... Je peux vous dire qu'il y a eu la plupart des guerres avaient un autre motif que religieux, même si à un moment donné, la religion était enrôlée dans le conflit et en l'exacerbant. Et quelquefois, avec un cynisme épouvantable, savez-vous que Staline, il a gagné la bataille de Stalingrad parce qu'il a restauré la Sainte-Russie. Il a demandé qu'on réouvre les séminaires, qu'on reconstruise les églises pendant 2 ou 3 ans. Hein. Hop, après, ça a été fini. Simplement pour mobiliser... La Sainte-Russie contre les Allemands. Grâce à ça, il a gagné la bataille de Stalingrad. Donc cette espèce d'enrôlement de la religion qu'on confond avec une responsabilité religieuse. Et pour vous donner un exemple, c'est vrai qu'il se trouve que j'ai beaucoup été en Russie pour le tourment de la guerre, puis que j'y suis retourné cet été en accompagnant un voyage de la vie et du monde, des lecteurs de la vie et du monde. Et donc j'y vais assez souvent. Et j'ai connu des amis qui sont des intellectuels russes, et je leur dis, quand je faisais le tourment de la guerre, je leur disais, vous savez, chez nous, on pense que la violence, elle vient de la religion. Alors ils éclatent de rire, ben, ils disent, nous, c'est le contraire. Ils nous disent, nous, c'est la religion qui a été persécutée. Il y a eu 1 million de chrétiens tués par les soviétiques en 75 ans, et chez nous, c'est plutôt l'athéisme qui a été éradicateur et meurtrier, comme en Allemagne, c'est le nazisme. Les deux grands totalitarismes du siècle, ils avaient comme point commun d'être athées, tous les deux. Alors c'est un peu bizarre de faire maintenant reproche à la religion d'être l'origine de la violence. Donc, mais tout ça, j'ai pas raconté tout ça dans ce premier chapitre, j'ai simplement montré que maintenant, il y avait une espèce de mode, vous avez remarqué à la télévision, quand quelqu'un va parler, il dit, je préviens tout de suite, moi je suis athée. C'est comme s'il montrait ses papiers d'identité, quoi. Vous voyez, je veux dire. Alors, plus je vois ça, plus ça me donne envie de dire de plus en plus fort, moi je suis chrétien.
Oui,
et plus que jamais.
Et vous n'êtes pas moins sévère, et c'est aussi ce qui est intéressant quand on vous lit, vous n'êtes pas moins sévère avec les chrétiens, car vous insistez, et ça fait aussi l'objet d'un ou deux chapitres suivants, vous insistez sur ce que vous appelez les âmes habituées, ou ce que peut-être Bernanos appelait les âmes habituées.
Alors c'est Peggy.
C'est Peggy.
Donc moi, j'appelle les catholiques athées.
Voilà. Parce que ce livre, il faut le souligner, c'est aussi un livre dans lequel vous rendez de nombreux hommages à des auteurs qui vous ont marqué, dont Bernanos, dont Peggy, dont Saint-Augustin et d'autres. Et vous citez Bernanos parlant de médiocrité chrétienne.
Oui, je fais un chapitre qui s'appelle « La médiocrité voilà. chrétienne » d'ailleurs. Parce que, comment vous dire, ça sert à rien de défendre sa foi et tout si on ne la regarde pas en face, si on ne regarde pas nos propres turpitudes, quoi. Et depuis 10 ans, comme médiocrité chrétienne, on a eu notre compte quand même. Et je parle quelquefois de médiocrité grave. La pédophilie dans l'Église, moi, ça m'a bouleversé, qu'est-ce que je vous dise. J'ai beau chercher toutes les explications, les trucs et tout, en disant qu'il y a de la pédophilie dans d'autres corps de métier, dans d'autres professions, mais cette pédophilie dans l'Église, un peu partout, ça m'a bouleversé profondément. Et donc, je voulais le dire. Et puis, ce qui m'a bouleversé aussi d'une autre façon, c'est que cette médiocrité chrétienne, elle, pardonnez-moi, je parle un langage brutal, mais mon évêque l'a déjà entendu.
Alors tout va bien.
Mais comment vous dire, il y a la médiocrité chrétienne, ça consiste quelquefois à tomber dans la bondieuserie, quoi. La bondieuserie, vous savez, et avec, on a tellement peur de pas être chrétien qu'on le surjoue, quoi. Et ça, c'est catastrophique. La médiocrité chrétienne, c'est aussi, alors j'avais osé une fois le dire, mais cette fois je le redis, c'est que moi je me sens vraiment chrétien. Enfin, en route vers le christianisme, personne ne peut se dire qu'il est chrétien, ce serait de la cuistrerie, quoi. Mais il m'arrive de m'ennuyer à la messe, quoi. Et je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Parce que si j'étais vraiment chrétien, ou si l'Église était ce qu'elle est, la messe, ça devrait passer comme un éclair, en 30 secondes. Et regarder sa montre, comme ça m'arrive à la messe, c'est que quelque chose ne fonctionne pas, ou chez moi, ou dans l'Église. Et alors, une fois, j'ai eu de la chance, parce qu'on m'a fait, il y a quelques années, on m'a permis de déjeuner avec Timothy Radcliffe, qui est le grand supérieur des Dominicains, et je lui ai dit, c'est un type très très sympa, et je lui ai dit, il m'a dit, Jean-Claude, on se tutoie, évidemment, très bien, alors, bon, tu veux, c'est un personnage considérable, et je lui ai dit, Timothy, alors, je peux te poser une question, j'essaye d'être chrétien, mais il m'arrive de m'ennuyer à la messe. Bon, ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Il m'a cité un évêque dans le même évêché que, pas très loin de Hippone, où était Saint-Augustin. Il faisait fermer à clé les portes de son église pour pas que les paroissiens s'en aillent pendant qu'il prêchait. Donc il m'a dit, il faut pas dramatiser. Il y a des messes ennuyeuses, ben, il faut le lire. Et puis, et en même temps, il y a des messes qui sont magnifiques, qui sont bouleversantes. Et c'est vrai que, mais le dire comme ça, l'avouer, moi, ça m'a déculpabilisé. Et j'ai même une chose, une fois, je fais beaucoup de place à un monsieur qui est devenu un ami depuis très longtemps, qui s'appelle Maurice Bellet, qui est un théologien qui sent le soufre, disons, mais avec qui je déjeune tous les 2 ou 3 mois à peu près. Et Maurice Bellet, un jour, c'était un lundi, j'arrivais à Paris, et il me dit, alors Jean-Claude, comment ça s'est passé? Ben, je lui dis, écoute, Maurice, je suis un peu gêné et tout ça, parce que la messe chez moi, en Charente, ce jour-là, elle était tellement rasoir que je suis parti. Eh bien, ça a été ta prière, il m'a dit. Ça a été ta façon de prier. Alors, mais en même temps, j'étais... Alors, mais pourquoi ne pas parler de ce trouble, de cette gêne, etc. Maintenant, je pense qu'avec des... J'ai été à Saint-Dié, au Festival international de Saint-Dié, là, dans les Vosges. Et puis, j'ai été par ailleurs à Limoges. Je vous dis ça parce que j'ai rencontré 2 fois 2 jeunes évêques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'un, c'est le nouvel évêque de Limoges, près de chez moi, qui s'appelle Monseigneur Cosy. Et l'autre, c'est l'évêque de Saint-Dié, dans les Vosges. Et ils ont moins de 40 ans, 40 ans, quoi. Il y a un côté... Et tout d'un coup, leur façon de parler, leur façon de... Je me suis dit, il y a des choses qui bougent aussi à l'intérieur de l'Église, quoi. Mais donc, voilà. Quant à la médiocrité chrétienne, oui, Bernanos, en effet, le dit. Et il le dit, d'ailleurs, avec une violence, quelquefois. Quand il parle, je vous dois une explication, ce que j'appelle les catholiques athées. Qui, me semble-t-il, ont encore une grande influence en France, sans savoir eux-mêmes que je les appelle comme ça. Enfin, peu importe. J'emprunte cette expression à Charles Maurras, le fondateur de l'Action française, qui disait « Je suis athée, mais catholique ». Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que l'Église intéressait en tant qu'institution pour maintenir l'ordre, en gros, pour la cohésion de la société. Mais le message évangélique, ça y trouvait cette espèce de truc talmudique de 3 ou 4 rabbins qui se... Ça n'intéressait pas du tout. Alors il était athée, mais catholique. Et dans Bernanos, j'ai trouvé des phrases... Bernanos qui a connu Maurras, bien sûr. Il a été à l'Action française, puis il s'en est séparé au milieu des années 20. Et Maurras a eu des phrases formidables, fulgurantes contre... Pardon, Bernanos a eu des phrases fulgurantes. Notamment cette phrase que j'ai citée, il a dit « Il y a des gens qui pensent que le Christ est mort sur la croix pour permettre aux propriétaires de dormir tranquille. » Et c'est un peu ça, vous comprenez ce que je veux dire. Il est vrai qu'il a dit aussi, pour nous, pour nous journalistes, il a eu cette phrase magnifique, il a dit « Le Christ est ressuscité, les journalistes n'ont pas été prévenus. » Voilà. Donc c'est vrai que Bernanos, je ne me suis pas... Alors ce chapitre devait s'appeler « Bernanos nous manque ». Et en fait, je me suis dit que c'était un peu restrictif. Et figurez-vous que j'ai reçu un coup de téléphone de Jean-Claude Casanova, le patron de la revue Commentaire, qui m'a dit « Jean-Claude, est-ce qu'on pourrait reprendre ce chapitre dans la revue ? Mais si vous me permettez, moi, je remettrai votre ancien titre « Bernanos nous manque ». Alors, dans Commentaire qui paraît là ces jours-ci, il y a les bonnes feuilles de mon livre, de ce chapitre, sous le titre « Bernanos nous manque ». Et c'est vrai qu'il nous manque.
Vous parlez aussi un petit peu plus loin dans un autre chapitre de la tentation de la citadelle.
Oui.
C'est-à-dire effectivement une tentation d'une foi un petit peu fermée sur elle-même. Et vous expliquez que vous avez besoin de prendre vos distances. Oui. Et à cette occasion, enfin, dans ce contexte-là, vous citez justement Péguy en expliquant que lui, Charles Péguy, était à la fois, comme vous dites, dedans et dehors.
Oui. Mais Péguy était d'une certaine façon dans la lignée de l'histoire chrétienne. Vous savez, je reviens sans cesse là-dessus et je mets Maurice Bellet dans le même sac, si j'ose dire. Ça fait 2000 ans que nous vivons un double mouvement. Nous avons besoin de l'Église. Si l'Église n'avait pas été là, la foi se serait perdue comme l'eau dans les sables. Mais si l'Église n'avait été là que toute seule, elle se serait sclérosée, parce que toute institution, quelle qu'elle soit, elle tend à se racornir. Et heureusement, il y a eu, au cours des siècles, il y a toujours eu des dissidents, des saints, qu'on a appelés saints trois siècles après, qui ont interpellé l'Église en la ramenant à sa mission qui est de porter l'Évangile, et pas d'être clérical, quoi. Alors, il y a Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix, il y a Maître Eckhart.
Oui, vous parlez beaucoup des femmes mystiques aussi, du Moyen-Âge notamment.
Et nous avons eu besoin de ces deux choses, et c'est fondamental. C'est-à-dire que nous avons eu besoin de chrétiens anticléricaux. Parce que le cléricalisme, ce n'est pas l'Église. Le cléricalisme, ce n'est pas la foi. Le cléricalisme, c'est une société, une institution qui se rigidifie.
L'esprit de vieillesse.
Qui se fige. Hein, et que Bernanos appelait l'esprit de vieillesse. Quoi. Et là, il y a aussi des pages fulgurantes de Bernanos. Bon, on ne va pas parler de Bernanos toute la soirée. Mais enfin,
non.
Je voulais évacuer, comment vous dire, dans les premiers chapitres, je voulais dire tout ça pour basculer ensuite dans le second chapitre, dans la seconde partie du livre. Je voulais faire un livre joyeux parce que je suis très joyeux et très heureux. Et plus je vais, plus je sens ma foi joyeuse. Et je raconte une petite anecdote, c'est que Maurice Bellet, qui a de l'humour et qui a été un auteur très connu, qui est prêtre, 96 ans à la fin de ce mois. Et un jour, je lui ai demandé, Maurice, écoute, c'est bizarre ce qui m'arrive, parce que j'ai passé 30 ans de ma vie à couvrir les guerres, à être dans les tueries, les égorgements, etc. J'ai eu mon lot de métiers, j'ai eu mon lot physique aussi, comme je vous ai dit. Comment tu expliques que je sois d'un tempérament joyeux malgré tout ça ? Alors il s'est moqué de moi, il m'a dit, Jean-Claude, tu veux une réponse de psychanalyste ou de théologien ? Alors je lui ai dit, moi j'aimerais bien les deux, si ça t'ennuie pas. Alors il m'a dit, écoute, réponse de psychanalyste, si t'as de l'argent et de la patience, si tu fais une psychanalyse d'une vingtaine d'années, peut-être que le psychanalyste arrivera à te faire comprendre que dans tes trois premières années, il s'est passé quelque chose qui explique ta joie. Ça sera très compliqué, mais ça te coûtera assez cher et ça durera au moins 20 ans. Et on n'est pas sûr du résultat, alors c'est à toi de voir. Je lui dis, bon, bah d'accord, merci Maurice. Et ta réponse de théologien, et il a eu cette phrase magnifique, il m'a dit, qu'est-ce que je te dise ? Ne te trompe pas sur ce que je vais te dire, mais tu as eu la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité spirituelle. La grâce, tu n'as aucune raison de t'en enorgueillir, etc. Tu as un seul devoir, c'est de la faire partager, et de la partager avec les gens. Donc c'est ce que tu fais en écrivant. Voilà, donc il m'a fait très plaisir.
Oui, parce que là, c'est vrai qu'on parlait de la première partie du livre, qui est effectivement la partie où vous stigmatisez ce qui peut faire défaut. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que plus on vous lit, plus on avance au fil des chapitres, et plus on se rend compte qu'effectivement, ensuite, on arrive sur des chapitres, par exemple, quand vous dites « c'est la vie qui gagne », ou du texte à la parole, ce sont des moments de votre livre où justement vous expliquez en quoi ce christianisme vous nourrit et ce qu'il peut y avoir de très positif dans les textes. Et justement, moi j'aimerais bien vous poser la question de manière un petit peu plus directe. Oui. Qu'est-ce que justement dans les évangiles, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous émerveille ou qu'est-ce qui vous touche?
Oh, il y a beaucoup de choses. Le sermon sur la montagne, moi, me fait m'arrache des larmes, quoi, par exemple. Mais ou certains passages de l'évangile de Luc ou de Jean, c'est vrai. Mais plus généralement, je dois à Jacques Ellul d'abord, et ensuite à René Girard. Jacques Ellul, qui était protestant et qui était plus anticlérical que Bernanos. Hein. Mais je leur dois à tous les deux de m'avoir fait comprendre, je crois vraiment, j'ai adhéré à ce qu'ils m'ont... que le message évangélique avait fendu en deux l'histoire du monde, quoi. Qu'il y avait eu un avant et qu'il y a eu un après. Et que plus rien n'a pu être après le message évangélique comme il était avant. Nous avons intériorisé quantité de choses dont nous ne souvenons même plus qu'elles sont chrétiennes, je veux dire. C'est-à-dire que... Et encore, il y a une belle phrase que m'avait dit René Girard. Il m'avait dit, tu sais, Jean-Claude, c'est ce qui reste de christianisme dans nos sociétés qui les empêche de s'effondrer. Et c'est pas idiot. Regardez, aujourd'hui, avec cette espèce de nihilisme, je fais un chapitre sur le nihilisme aussi. Regardez le nihilisme, pensez à ce qui est arrivé à ce type de Hollywood et tout, mais c'est répugnant. Il y a quelque chose d'effroyable, ça, que ce Weinstein, quoi, qui a violé des tas de femmes en profitant de sa puissance, de son chantage, etc. Imaginez une société qui, tout d'un coup, petit à petit, basculerait dans le cynisme, dans le chacun pour soi, elle serait tout simplement invivable. Il faut que quelque chose la tienne un peu debout. Et ce quelque chose, on a oublié que c'était d'origine chrétienne, mais je pense que le christianisme a nourri une bonne partie de cela. Quand vous voyez écrit sur le fronton des mairies « Liberté, égalité, fraternité », même si on ne les pratique pas, c'est quand même quelque chose de clair. Et bien ça vient d'où? Sinon du christianisme et du judaïsme.
Vous parlez aussi un petit peu du pape François, vous l'évoquez, et j'ai envie de vous poser cette question aussi, puisqu'on en a beaucoup parlé depuis qu'il est pape, et on a souvent mentionné aussi le pape moderne, progressiste qu'il était, et le bien qu'il pouvait faire justement au christianisme actuel. Est-ce que justement vous pensez que ce pape François apporte un renouveau ou voilà, justement se rapproche de ce que vous dites en termes de joie, en termes de retourner au texte et d'essayer de laisser de côté un petit peu certaines institutions.
C'est une divine surprise, ce pape. Bon, je vais vous parler même crûment, quoi. Il faut croire au Saint-Esprit, si j'ose dire, pour constater, pour accepter l'idée qu'une assemblée de cardinaux assez réac quand même, assez vieux jeu, assez... ils aient pu sortir de leur chapeau ce pape, quoi. C'est incroyable, parce que on a oublié maintenant que parmi les candidats possibles pour devenir pape, il y en avait, notamment il y avait un cardinal québécois, Ouellette, qui était lui carrément un retour en arrière, quoi. Et tout d'un coup, ce pape qui apparaît en un quart d'heure, il a changé la donne. Quand il est apparu au balcon de l'église Saint-Pierre à Rome, la place Saint-Pierre, il a dit « Bénissez-moi ». Et quand on lui a posé, vous vous souvenez, à plusieurs reprises une question, il a dit « Qui suis-je pour juger ?» Enfin, tout d'un coup, il a transformé alors, il y a des limites, il aura du mal à réformer la curie, sur le plan financier, sur le plan moral, etc. Il n'est pas impossible qu'il soit assassiné, je vous le dis franchement, parce qu'il y a une haine de ce pape qui monte, par exemple, aux États-Unis, la droite catholique le traite comme un gauchiste, quoi. C'est tout juste, s'ils ne disent pas, il faut le tuer, quoi. Donc il y a quelque chose de dangereux. C'est pas un truc habituel, c'est pas un pape qui en remplace un autre, etc. Il est profondément réformateur. Et comment vous dire, moi j'avais une de mes filles qui s'était un peu éloignée de la religion, comme moi, d'ailleurs à peu près au même âge. Et tout d'un coup, ce pape, elle est tombée des nues, quoi. Elle était sidérée d'admiration. Tout d'un coup, ce pape, il parlait une langue qu'elle entendait, elle. Et du coup, elle s'est mariée. Elle a voulu préparation au mariage à l'église et tout ça. C'était... Bon, voilà.
Oui, oui. Et il apporte justement un petit peu de cet esprit d'enfance dont vous parlez beaucoup aussi, que vous tirez de Berdanos, et, parce que vous insistez au long de votre livre, justement sur le fait que le christianisme souffre de cette vieillesse et qu'il faut, ça vous en parlez très très bien dans le chapitre La puissance des matins, où il est question effectivement, vous commencez par dire que vous aimez beaucoup le matin.
Matin très tôt.
Le matin très tôt, ça ne m'a pas échappé. Et puis voilà, donc vous finissez effectivement sur une note très positive en rappelant tout de même qu'il faut, il faut passer par l'autocritique et il faut essayer de retrouver justement cette enfance qui figure dans les textes évangéliques et qui a été rappelée par certains. Parce qu'en fait, c'est de ça dont selon vous, souffre le plus l'Église catholique.
Oui, de pas retrouver l'esprit d'enfance. Et je fais l'éloge, vous voyez, de quelqu'un qui est complètement inconnu. Comme chaque année, je vais au Québec depuis une quinzaine d'années. Là, j'y retourne à la fin de ce mois. Je me suis lié d'amitié avec les Dominicains de Montréal, du couvent Saint-Albert. Et j'ai connu un Dominicain extraordinaire qui est mort, malheureusement, il y a un an. Il est mort à 100 ans. Et c'était un grand érudit, un grand spécialiste des religions populaires qui avait une grande audience, y compris, même le Québec est devenu une société plutôt antichrétienne, plutôt laïque. Et ce Dominicain, il a fait deux livres qui m'ont bouleversé, parce qu'il s'est pensé, il a essayé de comprendre quel était le christianisme, la foi de ses parents, qui étaient des petits agriculteurs des bords du Saint-Laurent. Et il a fait un livre formidable, il a fait un livre qui s'appelle « La foi de mon père, la religion de ma mère », deux gros volumes, où il se penche avec beaucoup d'attention, beaucoup de générosité, sur ce qu'on appelait chez nous autrefois la foi du charbonnier. C'est une foi populaire qui n'a pas besoin de mots, qui n'a pas besoin de... Et il leur rend hommage, un grand hommage, tout en étant capable de les critiquer. Mais c'est une espèce comme ça de... Ils ont rendu hommage à ce que, chez nous, les intellectuels seraient tentés de mépriser, quoi. Et j'ai trouvé ça très bien, donc j'ai fait ces pages. Et du coup, les Dominicains de Montréal m'ont dit, je vais faire une conférence sur l'ordre dominicain. Donc ça m'a beaucoup troublé, parce que c'est une très belle chose. Parce que comment vous dire, ce qui m'a aussi motivé là-dedans, c'est que, comme il y a cette espèce comme ça de rejet de la religion et du christianisme et tout, on voudrait faire croire que les chrétiens sont sots. Vous êtes d'accord avec moi? On voudrait faire croire que les chrétiens sont un peu... Bon, c'est un peu l'obscurantisme et tout ça. C'est ridicule de dire ça. C'est tellement bête de dire ça. Je veux pas être méchant, mais si vous prenez un théologien, ceux que j'aime bien, ou même si vous prenez, je sais pas, l'évangile de Jean, il y a plus d'intelligence dans 15 lignes de l'évangile de Jean que dans 15 bouquins d'un philosophe médiatique. Vous voyez, donc il y a une pertinence. C'est-à-dire que le message évangélique, il n'est pas seulement gentil, il n'est pas gentil, parce que c'est un truc qui transforme le monde, mais il a une intelligence qui vaut encore pour le monde d'aujourd'hui. Il est capable de dire des choses importantes que souvent les politiques n'ont pas le courage de dire, concernant les pauvres, concernant l'égalité, concernant le respect des gens, concernant l'humiliation qui est pire encore que tout le reste, etc. Donc, concernant l'esprit d'enfance, qui est la plus belle chose qui soit. Mais on peut avoir l'esprit d'enfance. Moi, j'en ai 73, j'ai l'impression que je l'ai encore, pourvu que je l'ai encore, si je vis plus longtemps, jusqu'au bout, quoi. L'esprit d'enfance, c'est être jamais accoutumé aux choses, jamais blasé, jamais habitué, être toujours capable de s'émerveiller, d'être joyeux, y compris de gens, quoi. Bon, voilà, je suis pas là pour faire un sermon.
Mais... Oui, oui, non, mais c'est tout à fait intéressant.
Je serais bien incapable.
Est-ce que vous diriez que les évangiles sont un texte subversif?
Oui. Oh ben oui, ça... Ben d'ailleurs, Jacques Ellul a écrit un livre qui s'appelle « La subversion du christianisme ».
Anarchie et christianisme également.
Oui, c'est-à-dire que on a tendance à croire, dans nos cathos, quoi, bien tranquille et tout ça, qu'en fait, le message évangélique, c'est quelque chose de gentil. C'est très bien, ça nous rassure, ça nous permet de vivre un peu mieux. Mais pas du tout. Moi, j'aime bien employer cette formule. Le message évangélique, c'est pas du sirop d'orgeat, c'est de la nitroglycérine. Comment je veux dire ? C'est-à-dire que ça pète. Et d'ailleurs, René Girard dit très bien que le message évangélique est tellement radical qu'il lui a fallu plusieurs siècles pour petit à petit être interprété, être intégré, etc. Sinon, il met la société en danger, parce que tout d'un coup, vous vous rendez compte si... Comment vous expliquer ? Je prends un seul exemple. Il y a une phrase de Bernanos qui m'avait frappé. J'attends le jour où de jeunes chrétiens feraient le serment de ne plus mentir. Jamais. Vous imaginez un jour où nos politiciens feraient le serment de ne plus jamais mentir. Mais il faudrait inventer une autre démocratie. Comment vous dire ? Parce que c'est rien, mais c'est très important ce petit détail, ne plus mentir. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est un Tchèque, qui s'appelle Thomas Masaryk, un Tchèque. C'est lui qui a créé la République tchèque au moment du démembrement de l'Empire des Habsbourg. Donc il a fait partie de cette conjuration, d'une certaine façon. Et je suis un jour tombé sur un ami qui m'a montré ce texte qu'il avait écrit. C'était avant la réussite et la création de la Tchécoslovaquie, mais il avait écrit ça à l'adresse de ses partisans. Il avait dit « si tu veux combattre la tyrannie, commence par t'imposer deux choses, ne mens pas, ne vole pas. » Vous imaginez si un jour quelqu'un arrivait au pouvoir pour nous dire « Je vous jure de ne jamais mentir, de jamais voler. » Alors là, moi, je demanderais son numéro de téléphone.
Et n'avez-vous pas l'impression que nous assistons justement à un retour à un christianisme primitif, pour le dire vite, à revenir au texte sacré? En tout cas, moi, je peux le voir dans le rayon religion par rapport à la fois aux livres que nous recevons et aux demandes des clients. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on assiste quand même à quelque chose qui revient vers une forme plus pure et plus dépouillée, moins institutionnelle. Alors, je parlais du pape François qui peut-être a eu son influence, mais il n'y a pas que ça. Je pense aussi que le rapprochement œcuménique depuis le Concile Vatican II, par exemple, les catholiques communiquent plus avec les orthodoxes qui sont eux-mêmes beaucoup plus liés avec les origines.
Et avec les juifs.
Et avec les juifs, oui, oui. Et les protestants également, là, d'ailleurs, nous commémorons les 500 ans du protestantisme. Donc, est-ce que justement, vous êtes assez optimiste à la fin de votre livre, où vous expliquez que c'est loin d'être fini. Au contraire, même, le christianisme est toujours là. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez précisément ?
Je vais rendre hommage à quelqu'un qu'on ne connaît pas en France, mais qui s'appelle Alexandre Maine. Je l'explique en deux mots, parce que c'est quelque chose qui m'a... Alexandre Maine était un chrétien russe qui a fait partie de ce qu'on appelle l'Église du silence. C'est-à-dire qu'il a été chrétien clandestinement. Il a été prêtre clandestinement, alors que le KGB veillait à ça, etc. Et puis, en 1988, le Parlement russe, qui s'appelle la Douma, a voté une loi considérable. Elle a voté une loi qui réautorisait, après 75 ans d'anti-christianisme, la libre expression des opinions religieuses. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis à reconstruire les églises, à les reconsacrer, à rebâtir les monastères. Ça continue encore, puisqu'à l'époque, en 88, à l'origine, avant la Révolution, il y avait 350 monastères en Russie, il en restait 4. En 88. Donc il y a eu cette espèce comme ça de... Et la Russie est en train de se re-christianiser. Mais Alexandre Maine était un de ces prêtres qui, du coup, a pu parler librement et il est devenu, en quelques mois, une star des médias russes. Et il était invité partout, parce que, tout d'un coup, on entendait cette parole. Et en plus, sa parole était d'autant plus méritoire. C'est qu'il était d'une famille juive convertie au christianisme. Et que les mouvements antisémites en Russie, notamment le mouvement Pamiat, venaient souvent perturber ses conférences en disant « Mais toi, le juif, qu'est-ce que tu fais chez nous ?» Enfin, avec une grande violence. Et le père Maine, un samedi, il faisait une conférence à l'équivalent de l'école polytechnique à Moscou. Il faisait une conférence magnifique et il a conclu sa conférence par une phrase qui a fait le tour du monde « L'histoire du christianisme ne fait que commencer. » Et tenez-vous bien, le lendemain, en traversant une forêt pour aller dire sa messe, il a été assassiné d'un coup de hache derrière la tête. Sous les yeux de sa femme. Enfin, qui a vu quelqu'un qui se traînait comme ça par terre. Et en fait, c'était son mari. Les orthodoxes sont mariés, vous savez. Et au fond, la mort d'Alexandre Maine a été quelque chose pour moi qui m'a beaucoup... J'ai écrit un chapitre dans un livre sur Alexandre Maine. J'ai fait des recherches et tout. Et à Moscou, j'ai souvent posé les questions. Parce qu'il y avait... Qui avait pu organiser ce meurtre? Il y avait trois pistes possibles. Les antisémites, les radicaux du KGB ou la hiérarchie orthodoxe ralliée au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand j'ai posé la question à Moscou, à un copain, il m'a dit « Mais t'as pas compris que les trois, c'est le même ?» C'est-à-dire ce conservatisme haineux d'une partie de l'orthodoxie russe. Donc cette histoire d'Alexandre Maine m'a beaucoup frappé. Et j'ai toujours milité pour qu'on lui rende hommage. Ça s'est passé en septembre 90, son assassinat. Et Alexandre Maine était partisan, lui, d'un christianisme orthodoxe plus ouvert sur le monde latin. Il était venu voir à plusieurs reprises Monseigneur Lustiger à Paris. Il avait noué des liens avec lui et tout ça. Et son assassinat, ça a été comme ça quelque chose de terrible, quoi. Mais il y a chaque fois eu... Et cette phrase, l'histoire du christianisme ne fait que commencer, je crois qu'elle devient de plus en plus vraie.
Alors, il reste le problème de la transmission. Et ça, vous l'évoquez aussi. Effectivement, alors c'est assez amusant puisque vous dites en 2000 ans de christianisme, il y a dû y avoir une centaine de
générations.
Vous faites une autocritique aussi. Vous vous demandez si vous êtes à la hauteur de votre foi et vous vous demandez si vous êtes capable et si vous le faites, si vous pouvez transmettre et comment le faire. Voilà.
Ah oui, ça c'est. Je raconte une petite histoire juive, ça vaut le coup de la raconter.
Oui, ah oui, oui, oui.
Sauf c'est absolument une histoire géniale qui pourrait d'ailleurs très bien être une histoire chrétienne. C'est simplement. L'histoire est la suivante, elle est toute simple. Hein. C'est trois rabbins qui sont en train de discuter. Alors, il y a un rabbin orthodoxe, il y a un rabbin libéral, c'est-à-dire plutôt progressiste, et puis il y a un rabbin, on ne sait pas trop ce qu'il est. Alors, les premiers se disputent entre eux. Le rabbin orthodoxe dit, mais quoi, il n'y a pas de... Parce que le sujet de la conversation, c'est qui est juif? Comment on définit un juif? C'est un vieux sujet qui hante le judaïsme depuis toujours. Alors, le rabbin orthodoxe dit, mais quoi, il y a la loi chez nous, c'est simple. Et juif, celui qui a une mère juive, point à la ligne. Le reste, c'est des fariboles. Alors, il y a le deuxième rabbin qui dit, oui, c'est peut-être des fariboles, mais quand même, le rôle du père ne peut pas être minimisé, avoir un père juif, c'est important, etc. Et ils se mettent à se chamailler. Ce qu'on appelle le pilpoul en hébreu, la castagne verbale. Et à un moment donné, le troisième rabbin qui n'avait rien dit, leur dit, mais vous êtes des imbéciles tous les deux. Vous n'avez pas compris que la chose est encore plus simple. Et il dit cette phrase, et juif, celui qui a des enfants juifs. C'est magnifique, c'est-à-dire celui qui a été capable de transmettre. Et donc, au fond, la transmission, c'est une question fondamentale, c'est vrai. Et moi, je me suis interrogé, est-ce que j'ai été capable de transmettre? Il y a des moments où je suis optimiste, d'autres moments où je le suis moins. Mais je sais une chose, en tout cas, c'est qu'on ne peut plus espérer transmettre à ses enfants en leur faisant des discours. Parce que ça, ils s'en foutent. Et ils ont raison. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, faire du catéchisme, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ils ne veulent plus entendre parler de ça, parce qu'on leur a tellement menti, on leur a tellement raconté de blagues, vous comprenez, je veux dire, le père de famille qui fait l'éloge de la fidélité, qui en fait a une maîtresse dans la ville, ou le chef d'entreprise chrétien qui se dit, mais la précarité, c'est normal, il faut accepter la précarité dans la vie, etc., et qui en même temps se fait préparer des retraites, chapeaux, des retraites. Donc, cette hypocrisie, ils ne veulent plus en entendre parler, et je pense qu'ils ont raison. Mais ce qui les intéresse, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on vit. Comment on vit? Parce que quand tout d'un coup, ils tombent sur quelqu'un qui vit sa foi, vraiment, sans faire des esbroufes, alors vous savez ce qu'ils disent? Il dit alors là, total respect, monsieur, avec le jargon lycéen. Donc je pense que la seule façon de transmettre, c'est de vivre sa foi. Et je vous parlais tout à l'heure de mon amitié avec Edgar Morin, et il a eu une phrase magnifique là-dessus, que je trouve très belle. Il a dit « Celui qui ne vit pas comme il pense, se condamne à penser comme il vit ». Vous comprenez, je veux dire, c'est magnifique, quoi. Et tout simplement, quand je crois que c'est... J'ai des amis, de jeunes chrétiens, y compris orthodoxes et tout, qui sont très attachés à ça, quoi. La seule façon de transmettre, c'est de vivre la foi. Bon... Et d'ailleurs, il y a un beau livre, peut-être, vous recevez les livres du Passeur, les éditions du Passeur.
Oui, bien sûr, oui.
Ils viennent de faire un très beau livre sur Maurice Zindel. Ils ont réédité un livre de Maurice Zindel.
D'accord.
Et le titre, c'est « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ».
Oui, exact.
Hein, vous avez
exact, oui.
Ça. C'est un très beau livre.
Je l'ai vendu. Je vais en commander d'autres. Oui, c'est bien parce que vous citez Maurice Zindel, vous citez Maurice Bellet, vous citez Jean Baster. Et je vous remercie parce que ce sont des auteurs qui sont sur mes étagères depuis toujours, qui sont peu demandés, peu lus. J'ai beaucoup aimé que vous parliez de Jean Baster.
Jean Baster, c'est quelqu'un... J'ai fait sa connaissance et puis comme ça. Et puis Jean Baster, c'était un théologien qui a toute sa vie, d'abord, c'est lui qui animait les amitiés Charles Péguy, donc c'est comme ça que je l'ai connu, et c'est lui qui, pendant des années, il a écrit des livres pour expliquer que l'écologie n'était pas incompatible, que le christianisme n'était pas incompatible avec l'écologie. Et ça n'intéressait personne. Alors moi, il m'envoyait des petits mots comme ça, en me disant, Jean-Claude, encore un nouveau livre, mais personne n'en parle, etc. Alors j'ai fait ce que j'ai pu, chaque fois j'ai pu en parler. Puis il a fait cette chose très belle, c'est que sa femme est morte, et il a continué à écrire ses livres en les signant de leurs deux noms, Hélène et Jean Baster.
Oui.
Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit, mais Jean-Claude, les conversations avec ma femme, ce qu'elle m'a aidé à comprendre... sont aussi importantes que ce que je pense moi-même. Donc, sur le fond, c'est peut-être moi qui ai écrit, mais sur le fond, ma femme doit signer ce livre avec moi, ça, aucun doute. Donc, je ne sais pas, ces 5 ou 6 derniers livres sont signés de leurs deux noms, ce que je trouve ça magnifique. Et quand j'ai lu, tenez-vous bien, c'est ce que j'essaie de... Ça n'engage que moi, mais quand j'ai lu l'encyclique du pape, Laudato Si, sur l'écologie, quoi, cette espèce d'événement incroyable. Le texte le plus radical sur l'écologie est venu cette fois du Vatican. Et comme je l'ai lu attentivement, j'ai trouvé des choses qui viennent incontestablement de Jean Baster. Je suis sûr que, je m'avance, je n'ai pas de preuves, mais je suis sûr que tous ses travaux pendant des années, notamment sur François, sur
oui, parce qu'il n'était pas nombreux à écrire sur l'écologie chrétienne.
Non, non. Ouais. Donc Jean Baster, je suis content de lui rendre hommage, oui.
Merci beaucoup, Jean-Claude Guillemot. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Vous pouvez demander à M. Guillemot une signature, une dédicace, et continuer encore un petit peu la soirée en privé.